Les Lutiques. On va lire le chapitre 3. On va pouvoir y lire le troisième sacrifice présenté dans cet ordre. Lévitique, chapitre 3. Nous avions donc vu l'Holocauste, qui se caractérise par quoi ?
Une offrande entière, totale.
Très bien. Un sacrifice qu'on appelle sanglant, donc animal, qui est complètement offert à Dieu. Et ça symbolise quoi ?
L'offrande de l'eau.
Voilà, la consécration. Okay. On avait vu la deuxième offrande, c'était une offrande, ce qu'on appelle de fleurs, de farine. Donc, qui était la caractéristique de cette offrande ? Alors déjà, ça c'est une des caractéristiques, c'est donc une des seules offrandes non sanglantes, sanglantes. Voilà, c'est reconnaissance. Ça c'est une action de grâce, de reconnaissance. Et puis on avait vu qu'il y avait quelques éléments, qui étaient ingrédients qui étaient caractéristiques. Essayez de m'en rappeler au moins quelques-uns.
L'huile.
L'huile, merci beaucoup. Symbole de quoi ?
De la délicatesse et de la douceur de...
Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ingrédient ?
Ce qui est le plus fin de la farine. Là.
La fleur de farine, exactement. Donc c'est l'offrande peut-être la moins chère, mais ça ne veut pas dire qu'elle est la moins bien, exactement. La fleur de farine, c'était la meilleure partie de la farine. Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme ingrédient ? Un ingrédient qui doit se trouver sur tous les sacrifices. Non, c'est pas de l'eau qu'on devait mettre sur tous les sacrifices. Le sel, très bien. Symbole de quoi ? L'alliance. Symbole de l'alliance conclue entre Dieu et les hommes. Quelqu'un parlait du levain. Il doit y aller. Avec ou sans levain ?
Sans
levain. Voilà, sans levain. Et sans quoi encore ? Donc on avait dit le vin, dans ce cadre-là, c'était le symbole effectivement du péché, de ce
pas
qui de travaille
miel,
en nous.
Pas de miel.
Exactement, symbole de quoi le miel ?
La gourmandise. C'est le sucre.
Le sucre, donc symbole de quoi ?
Pas
d'adoucissant, pas d'hypocrisie, pas d'apparence, voilà. Cherche pas à mettre dans nos actions de grâce. Essayez tout simplement de repenser à cette prière entre... cet homme qui se donnait une bonne conscience devant Dieu, « Ah, je te bénis, je ne suis pas comme les autres, moi je fais ceci, moi je fais cela. » Alors que c'est celui qui était à côté qui disait, « Seigneur, pardonne-moi, sois apaisé envers moi. » Voilà, là on a très bien le symbole. Dieu ne veut pas qu'on soit là comme des pompeux, des gens qui cherchent à mettre du miel dans nos actions de grâce. Il veut quelque chose d'honnête, de vrai, de sincère.
Pas d'artifice, en fait.
Pas d'artifice, c'est exactement. Excellent. Mention spéciale pour notre chère amie Angelina. Lévitique chapitre 3, on va découvrir un autre sacrifice. Commençons la lecture. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, voilà, ça c'est le nom de ce sacrifice. S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la bête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles de toute celle qui est attachée. Les deux rognons, en fait les rognons, ce sont les
reins.
Les reins, excellent. Et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. Donc on voit un peu la situation. Le sacré, il y a déjà un holocauste qui brûle et on apporte en plus de la notion du sacrifice d'holocauste, on apporte en même temps des sacrifices complémentaires. On reviendra dessus tout à l'heure. verset 6, verset 5. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si l'offre du menu de bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de la victime, qui l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière, qu'il séparera d'après près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel, il posera la main sur la tête de sa victime, qui l'égorgera devant la tente d'assignation, les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour de la victime. Il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il offre ? La graisse, c'est pour voir si vous suivez, qui couvre les entrailles et toutes celles qui y attachées. Ensuite, les deux rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre le flanc et le grand... Et le foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, toute la graisse de l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Ok, sacrifice d'action de grâce qui est un sacrifice sanglant, c'est-à-dire que c'est un animal qui est offert à Dieu. Et... à la différence de l'Holocauste, il n'y a que quelques parties qui sont offertes à Dieu. Quand on a dit offertes à Dieu, c'est-à-dire que ce sont des parties qui sont entièrement brûlées et qui sont, se transforment en fumée. Le reste est consommé par les offrandes. Alors, ce n'est pas dit dans le texte, il y a plein d'autres passages, mais il faut réaliser que dans cette partie-là, les gens arrivent avec leur offrande. Donc on sépare les quelques éléments, c'est ça que l'on offre à Dieu, et le reste est consommé par ceux qui l'offrent. Le sens de ce sacrifice, on le lit au verset 3, c'est action de grâce. Qu'est-ce que signifie action de grâce ? Cela signifie remercier Dieu. Et ça, c'est déjà une première leçon qui est assez intéressante. C'est qu'on pourrait se dire, bah, chacun peut remercier Dieu comme il le veut. C'est vrai ? Pourquoi codifier une action de grâce ? Pourquoi codifier une manière de remercier Dieu ? Ben ça nous parle. C'est qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Quelque part, pour remercier Dieu, c'est-à-dire qu'on cherche à apporter un geste qui fasse plaisir à l'autre. Je prends un exemple tout bête. Si vous voulez me remercier parce que je suis très gentil avec vous, n'est-ce pas ? Puis vous dire, oh, il est tellement gentil, on voudrait faire un petit cadeau pour Benoît, et que vous m'offrez un ticket pour aller voir Johnny au concert à Nantes. Je serais touché par le geste, mais je crois que votre sourire fait sentir que ça va pas me faire si plaisir que ça, quoi. Et quelque part, votre geste de remerciement va manquer le but, parce que vous auriez pensé que ça va me faire super plaisir, mais en fait je vais être super gêné. En fait, ça m'est vraiment arrivé, ça, qu'on me fasse un cadeau et j'étais vachement gêné devant le cadeau, et la personne a senti que ça manquait de sincère épanouissement, et la personne était donc aussi gênée. Mais ça, c'est une manière de nous apprendre qu'on ne peut pas apporter à Dieu des remerciements non codifiés, et qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu. Et le vrai remerciement que l'on peut apporter à Dieu est contenu dans ces lignes-là. Qu'est-ce que nous apprend ce passage-là ? Alors, je ne reviens pas sur les différentes étapes de l'offrande. Ça, on l'a déjà vu en introduction, le fait de poser la main, répandre le sang. Ça, c'est sur le site internet, si vous voulez reprendre les 6 points de la manière de présenter les choses. Mais ce qui caractérise cette offrande, c'est ce que nous avons lu, et c'est ce que je vous ai fait lire tout à l'heure, c'est que dans ce sacrifice, il y a 3 choses qui sont demandées. Premièrement, je vous l'ai fait lire tout à l'heure. Quel est le point commun qui est demandé? La graisse. Les reins, les rognons et le foie. Super tambouille, belle cuisine. Vas-y, bah, pourquoi Dieu est-ce que tu veux ça? Pourquoi est-ce que pour un sacrifice d'action, comment, pour un geste de remerciement, pourquoi est-ce que c'est cela que tu réclames? Et là, en fait, on va un peu plonger dans la symbolique de ces mots-là, et qui en fait sont pour nous absolument pas parlants, mais qui sont culturellement très parlants dans la parole de Dieu. La graisse est considérée comme la meilleure partie de l'animal, la plus riche. C'est la partie qui est la plus délicieuse, qui a une grande valeur. Vous pourrez lire quelques références, mais notamment Genèse, chapitre 45, verset 18, où il est dit « Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. » D'accord ? Donc, dans la compréhension, dans la symbolique, la graisse, c'est ce qu'il y a de meilleur. On va voir les 2 autres et après on fera une petite synthèse. Que représentent les rognons? Il y a un double sens. Intérieurement, je veux dire de manière... Alors ça, c'est le caractère extérieur. Et c'est souvent celui qu'on connaît le plus. Alors on va commencer par celui-ci. Extérieurement, ça représente la vigueur, la force. Par exemple, on lit en Job, chapitre 40, verset 11, « Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. » Ok ? Ça, c'est le premier sens, c'est le signe extérieur. Mais il y a un sens qui est aussi intérieur, qui est beaucoup moins utilisé pour nous, parce que cette notion de la force, ça, on la conçoit, parce qu'on a toujours vu nos vaillants hommes avec cette notion de porter les choses. Mais dans la conception... biblique et je pense culturel, intérieurement ça représente l'âme, les entrailles, le siège des émotions, ce qu'il y a vraiment là de l'affection, ce qui nous touche le plus profondément. Et là aussi en psaume, verset 26, verset 2, écoutez-moi, écoutez cela, c'est parlant. Le psalmiste dit sonde-moi, Éternel, ok, sonde-moi, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Okay? Et donc, il y a plusieurs situations comme ça. Je crois que... Ah bon, on verra ça après. Donc, la notion, les reins, c'est en fait le senti... Culturellement, à l'époque, c'était le siège de l'émotion, de ce qu'il y a de plus profond. Et extérieurement, la vigueur. Et quelque part, c'est lié. Parce qu'on met de la vigueur et de la force dans les choses qui nous tiennent. Alors pour nous, on dirait à cœur. Mais vous allez voir, parce que maintenant, on va revenir sur la notion du foie. Et le foie, en fait, les Juifs appelaient par exemple le foie, en hébreu, on dit kabed. Alors ça ne vous dit absolument rien. Mais en fait, kabed, ça veut dire pesant, au sens de lourd. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, cela signifie que pour eux, le foie... est l'organe le plus lourd et donc le plus important. Les Juifs considéraient le foie comme un organe vital. Et plus encore, en fait, ce que eux considèrent, la considération que nous portons sur le cœur, eux, ils le mettent sur le foie. Alors, une petite anecdote. Lamentation, chapitre 2, verset 11. Il est écrit « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, ma bile, en fait, c'est le même mot que ma foi, parce que la bile, se répande sur la terre. » Et nous, on aurait, si on avait dû le traduire avec nos rapports culturels, on aurait dit « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles s'agitent, bouillonnent », ça va encore, et on aurait dit quoi « Mon cœur est déchiré » ou « voilà, j'ai le cœur brisé », on aurait utilisé cette image-là. Et bien, culturellement, les Juifs considéraient le foie comme étant un organe vital très important, comme nous, on le met par rapport au cœur. Alors, si on fait une synthèse, la graisse, c'est ce qu'il y a de plus riche, de plus délicieux. Les rognons symbolisent les entrailles, l'émotion, l'affection. Et la foi, ce qu'il y a de plus important, le plus lourd, le plus vital. Voilà, l'action de grâce qui plaît à Dieu, c'est celle qui est apportée avec nos tripes, avec nos cœurs, avec nos émotions, avec notre engagement, avec notre ferveur. Voilà l'action de grâce qui plaît à Dieu. Et là, on comprend beaucoup mieux la symbolique de ces parties qui, jusqu'alors... Alors, je crois qu'il y a un verset qui colle très bien à cette vision. C'est Luc chapitre 10, verset 27, où Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et on retrouve là toute cette symbolique qui est représentée dans ces parties du corps. Alors, ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui est décrit en Ésaïe chapitre 29, verset 13, où le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche, de la bouche de ses lèvres, pardonnez-moi, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais au contraire, que Dieu trouve en nous un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité, comme dit Jésus en Jean, car c'est cela que le Père demande. Dieu demande des adorateurs en esprit, en vérité, des hommes et des femmes qui sachent apporter une action de grâce, non pas stylisée, mais qui viennent du cœur, qui viennent des tripes, qui viennent avec un élan, un dynamisme, un entrain. Et rappelez-vous, lorsqu'il y avait dans le temple ces trompettes, ça faisait du bruit. Il y avait vraiment une adoration qui était lourde, qui était pesante, qui était entraînante, qui était impressionnante. C'est ça, l'adoration, l'action de grâce que Dieu attend. Vis-à-vis de Jésus, le sacrifice d'action de grâce, on sait que Jésus s'est donné tout entier, qu'il n'a rien retenu. Jésus n'est pas connu seulement comme étant, avant d'être celui qui s'est offert en sacrifice pour les péchés, etc. Il est dit qu'il était aussi celui qui était rempli d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Il y avait cette reconnaissance, il y avait cette joie dans la personnalité de Jésus. Jésus est celui dont il est dit qu'il tressaillait d'allégresse, et qu'il rendait grâce à Dieu de ce que... les choses ont été cachées aux sages et aux intelligents. On voit que Jésus était vraiment quelqu'un qui était aussi ému de compassion. Jésus est celui qui a travaillé avec son cœur, avec ses tripes. Il était capable de pleurer devant les gens. Jésus n'était pas un intellectuel, ce n'était pas un distant, mais c'était vraiment quelqu'un qui avait des tripes, qui avait des cœurs, qui avait des émotions. C'est ce qui a troublé d'ailleurs le peuple. Parce que quand il voyait Jésus, il était tellement normal, tellement humain. Il avait ses sentiments, non pas à fleur de peau, mais il communiquait des sentiments. Alors que la vision de Dieu, bien souvent, elle est lointaine, elle est distante, elle est presque désincarnée. Alors que Jésus nous a montré au contraire que l'évangile est incarné, quelque chose de vrai. Et nous aussi, faisons attention de rester des hommes et des femmes sensibles, avec nos tripes, avec nos cœurs, avec vigueur, et que nous sachions toujours apporter la même action de grâce, la même adoration, quels que soient les temps et les circonstances. Parce que de temps en temps, quand tout va bien, on est plein de zèle, d'entrailles. Mais même lorsque les temps ne vont pas bien, il faut encore que nous apprenions à dire « Seigneur, c'est avec mon trip. » Sans miel, hein ? Sans miel ! Il n'est pas question de faire semblant, mais de toujours apporter le meilleur de nous au Seigneur, ce qu'il y a de plus précieux. Et Dieu se réjouit de ce genre d'action de grâce. Amen. Parce que ce sont les deux, hein. Il y a deux actions de grâce. La fleur de farine avec toutes les qualités que vous avez rappelées, et plus cet engagement de tripes que le Seigneur nous fait comprendre au travers de ce sacrifice sanglant. Amen.